Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h41, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, le petit déjeuner de l'actu. Philippe Bilger, Eric Revel et vos appels 0826-300-300. Oui. En attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin?
Et ne ratez pas non plus notre rendez-vous dans une demi-heure maintenant.
Ouais, voilà, on l'adore, hein, Philippe Tournon, la star de la presse de l'équipe de France.
Ben oui, pendant 50 ans, il a dirigé le service de presse. Enfin, il a eu plusieurs postes, mais dans l'équipe de France, de football, auprès des Bleus. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout connu. L'éclosion de Platini, Zidane, les affaires, Cantona, Papin et d'autres affaires. Alors, il n'était pas à Nice, puisque évidemment, il avait été remercié par Domenech et il est revenu avec Deschamps. Il raconte mais énormément d'anecdotes autour, dans le football, mais autour aussi du football. C'est vraiment passionnant
et
c'est
une
bible. Hein, pour ce... oui,
358
absolument.
Pages, Patrick.
Oui, absolument. Il sera avec nous donc tout à l'heure à 9h15 et si vous voulez lui poser des questions, eh bien, vous n'hésitez pas, 0826-300-300. Alors, ce matin, donc, la revue de presse, sans surprise, hein, Benjamin, la quasi-totalité des journaux font leur une, évidemment, sur le couvre-feu à 18h dans toute la France.
Oui, exception faite peut-être de Libération qui a choisi en ce lendemain de conférence de presse de proposer un dossier sur la grande détresse des étudiants entre isolement et précarité. Alors certes, ces étudiants pourront retourner en cours à partir du 25 janvier, mais seulement en petits groupes pour les travaux dirigés. On l'a appris hier soir, une annonce qui semble néanmoins dérisoire pour faire face à ce mal-être de la jeunesse. D'ailleurs, ce n'est pas cette mesure qui fait la une des journaux ce matin, mais bien, vous l'avez dit, la généralisation du couvre-feu. 18h, on ferme pour l'indépendant catalan. 18h, bonne nuit, carrément, dans Midi Libre. Le petit bleu d'Agen et la montagne nous mettent directement à la maison dès 18h. Et pas d'exception hein, pour Sud-Ouest. C'est couvre-feu à 18h pour tout le monde et pour au moins 2 semaines. Enfin, un titre à la Johnny Hallyday. Tenez, pour la Provence qui écrit Castex retient la nuit.
Oui. Et dans ce contexte, la Nouvelle République des Pyrénées raconte que la réanimation est toujours sous tension, par exemple à Tarbes.
Ben oui, où seul un quart des lits de réa de l'hôpital étaient encore disponibles avant-hier. Preuve que le Covid accapare encore largement les soignants, des soignants sur le front depuis déjà 10 mois. Ça fait long reportage, en tout cas en immersion dans ce service à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle République des Pyrénées.
Oui, et puis alors un dossier sur l'actualité économique, c'est les Échos qui se penchent sur le dossier Carrefour qu'on a évoqué avec Eric Revel hier et le retour, entre guillemets, de l'État interventionniste.
Ben oui, avec un refus qui stupéfie le monde des affaires. Le ministère de l'Économie a décidé de s'opposer au rachat de Carrefour par Couche-Tard, le Canadien qui promettait 3 milliards d'euros pour développer les distributeurs français. Mais Bruno Le Maire a brandi l'argument de la souveraineté alimentaire. Il estime par ailleurs que Carrefour n'a pas besoin de se vendre pour continuer à se développer. Les Échos qui montrent ce matin un milieu des affaires sceptiques, craignant pour l'image des enseignes françaises sur les places boursières. Quant à la souveraineté alimentaire, les Allemands Lidl ou encore Aldi ont nourri les Français aussi bien que Carrefour pendant les confinements. C'est ce qu'on peut lire donc ce matin dans les Échos.
Oui, merci à vous. On poursuit notre tour de France avec la Dépêche du Midi. Éric Berger, qui est rédacteur en chef adjoint de La Dépêche, qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Tous nos voeux au passage, hein, c'est encore la période, on peut se souhaiter
merci.
Absolument les bons voeux. À la une de La Dépêche ce matin.
Ben, le couvre-feu, évidemment, comme tous nos confrères. On s'est intéressé aux annonces de Jean Castex hier soir. Et finalement, le bruit qui courait depuis quelques temps s'est confirmé. C'est finalement pas une grosse surprise. Le couvre-feu est étendu à 18h dans tous les départements et sur tout le territoire. Alors pourtant, ces derniers temps, il semblait que la région Occitanie était plutôt épargnée. Mais c'est vrai qu'on s'est... Du coup, on en a profité pour se pencher sur les chiffres et on publie une carte département par département, qu'il y a une augmentation du nombre de cas là sur ces derniers jours, assez inquiétante. On est plutôt sur une mauvaise pente. Et donc, il y a ce couvre-feu à 18h. On a fait réagir les milieux économiques, les commerçants. Et quand même, globalement, les réactions sont plutôt négatives par rapport à cette décision d'avancer le couvre-feu.
Oui, c'est vrai que pour les commerçants et pour beaucoup d'activités, arrêter à 18h, ça risque d'être assez difficile à supporter. Donc c'est le principal sujet. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui retient notre attention, Éric?
Oui, alors on a d'autres sujets, notamment en politique. Il y a une petite musique là qui tourne depuis quelques temps.
Oui.
C'est un probable report des élections régionales et départementales qui sont prévues au mois de juin. Alors ça n'est pas encore officiel, les dates du mois de juin. Et visiblement, une décision sera prise au mois d'avril, mais il semble que le terrain se prépare à ce que ce soit reporté. Ouais. On parle même d'un report en fait en 2022 après la présidentielle. Alors rien n'est encore certain, mais compte tenu de la situation de la crise sanitaire, il est possible que ce soit reporté à l'année prochaine.
C'est vrai. Alors qu'il y a une bagarre qui s'annonce pour ces régionales. Hein, donc évidemment, notamment en Occitanie, où nous avons publié un sondage il y a deux jours qui montre que Carole Delga reste en tête au premier tour s'il y avait cette élection, mais qu'il y a une fragmentation de l'autre côté, notamment et à droite, hein, notamment s'il y avait une candidature Robert Ménard et Brigitte Barège qui est LR à Montauban. Quoi, hein, et donc là, il y aurait une fragmentation.
On a d'ailleurs publié les résultats de votre sondage aujourd'hui, qui est assez éclairant et qui confirme des tendances précédentes qu'on avait eues dans d'autres sondages, qui est que la fragmentation des listes à droite profiterait à une liste de gauche de la présidente sortante.
Absolument. Merci beaucoup, hein, Éric Berger, rédacteur en chef adjoint de La Dépêche du Midi, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Vous pouvez retrouver tout ça, bien sûr, dans le journal, mais également sur Internet, hein, bien sûr, sur le digital.
Et on continue ce matin, c'est le petit déjeuner de l'actu. Ce matin, Philippe Bilger, Éric Revel vous appelle, comme tous les matins, 0800 26 300 300. Et on va peut-être reparler un peu dans... C'est le côté positif de la journée, c'est ce qui se passe chez Renault.
Oui, on va en parler avec Éric Revel, qui c'était sa chronique, en fait, tout à l'heure, quoi, sur cette stratégie. Avant cela, comme chaque vendredi avec vous, votre regard aussi, Philippe Bilger, sur l'actualité. Vous voulez revenir d'abord, dans un premier temps, sur la stratégie de Macron, là, qui, ces deux derniers jours, a fait redire qu'il voulait continuer ses réformes. Alors que bon, c'est quand même compliqué à mener. Hein.
Absolument, Patrick Roger.
Oui, il y avait un petit écho, là.
Il me semble que...
Ah, il y a un petit écho. Ça va aller, Philippe. Oui, parce que là, on avait un DJ. C'était pas Philippe Bilger, c'était DJ Bilger. Là, allez-y.
Voilà, il me semble, Patrick Roger, qu'il y a d'abord une sorte de tradition française qui considère que la réforme est toujours nécessaire, au fond, même lorsqu'elle n'est pas absolument utile. Et qu'un pouvoir ne donne l'impression de travailler que lorsqu'il réforme. Deuxième point, il me semble que cette volonté de réforme à tout prix d'Emmanuel Macron vers la fin de son mandat démontre qu'il a conscience que, en réalité, son bilan n'est pas considérable, et ça n'est pas seulement de son fait, parce qu'il a subi un certain nombre de crises, dont certaines, certes, ont été mal gérées par lui, mais la Covid est un fléau qui pèse sur l'action du gouvernement et dont, évidemment, il n'est pas responsable. Troisième élément, et j'ai terminé là-dessus, c'est que même s'il souhaite réformer, il aura du mal à persuader les Français que la réforme, celle qu'il prévoit, est indispensable, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que la crédibilité du gouvernement n'est pas absolument assurée à la suite de la gestion de la Covid-19, et en particulier depuis quelque temps, par le traitement des vaccins.
Oui, absolument. Et en plus de ça, avec toutes les conséquences économiques, hein, Éric Revel, c'est vrai que le chef de l'État voudrait avoir un bilan à présenter pour 2022. Et là, quand on regarde, il n'aura pas grand-chose à présenter, Éric Revel. Alors, il pourra toujours dire qu'il y a eu le Covid, mais bon, pour le reste, un petit peu difficile, non ?
Oui, alors on se souvient, hein, on va faire le parallèle avec ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy en 2007-2008, lorsque l'ancien chef de l'État a fait face à cette crise financière des subprimes américains. Finalement, il a été empêché évidemment là aussi de faire des réformes, mais moi où je trouve ça extrêmement périlleux, et ça dénote peut-être d'un caractère jupitérien, au mauvais sens du terme, d'Emmanuel Macron, c'est que prendre le risque de faire, ou d'ailleurs de dire qu'on va faire des réformes, alors que le tissu social du pays est en incandescence, ça me semble extrêmement dangereux, parce que qu'il veuille avoir un bilan politique ou donner l'impression de l'action politique, le résultat risque d'être le même dans une population et dans des difficultés sociales chauffées à blanc dans notre pays, parce qu'évidemment, pour beaucoup de gens, les réformes, prenons le cas des réformes des retraites, c'est un sujet incandescent, c'est un sujet explosif. Donc, il aurait très bien pu, Emmanuel Macron, dire, bah, écoutez, voilà, on est dans une situation sanitaire tellement catastrophique, j'avais dit, mais je ne peux pas, réalisez-moi pour faire mieux la prochaine fois à la limite, mais prendre le risque de dire, on va continuer les réformes alors que le pays est dans une situation sociale de crispation absolue, de paupérisation avancée dans certaines de nos régions, c'est un risque politique, à mon avis, à mon sens, qui est majeur.
Oui, Philippe Bidger.
Patrick, j'allais dire, non pas pour me contredire, mais pour me compléter, a-t-il vraiment le choix ? Parce qu'en définitive, s'il ne tentait pas d'accomplir des réformes, il est évident que le peuple français jugerait presque exclusivement ce pouvoir sur la manière sans doute discutable dont il a géré cette dernière crise qui n'est pas terminée. Et puis, il est évident, ça a été dit par des psychologues en politique collective, il est très difficile pour un président d'être réélu s'il laisse de manière prépondérante dans l'esprit collectif la certitude qu'il est porteur de sombres et de tragédies. Même si la Covid n'est pas de son fait, bien sûr, eh bien, les Français pourraient tenter de ne pas réélire quelqu'un qui porte avec lui un malheur collectif.
Oui. Merci. On continue au 0826 300 300, Cécile.
Absolument. Nous avons Olivier de Montpellier qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bon.
Je souhaiterais intervenir et développer un argument qui est, je pense, judicieux.
Oui.
Et c'est lié à toute cette histoire de Covid et de vaccins.
Oui.
Moi, je pense que les restrictions de liberté sont voulues.
C'est-à-dire
les informations distillées sont voulues.
Oui, c'est-à-dire
la vaccination sont voulues. Alors, vous allez voir ce qu'on m'a pensé.
Oui, oui.
Je suis un professionnel de santé. Ça fait 18 ans que je travaille avec les hôpitaux publics et privés.
Oui, oui.
J'ai malheureusement, entre Noël et Jour de l'An, pendant mes congés, fait la visite privée de la réa et des soins intensifs parce que j'ai un gros pépin de santé. J'ai aussi le fait de pouvoir visiter, de connaître le milieu par cœur.
Ouais.
Et on nous ment en permanence.
Ouais.
C'est-à-dire
sur quoi on sur les
on... ah bah sur plein de choses. Ouais. Mais vous allez voir en fait ma comment dire là où je veux en venir. C'est très simple. On vous balance un couvre-feu à 18h.
Ouais.
On vous donne des restrictions pour inciter les gens à être vaccinés sur quelque chose qui a pas fait ses preuves. Alors je vais reprendre un argument qui a été donné par le docteur Louis Fouché, que j'ai l'honneur de connaître, on s'est croisé quelques reprises sur la conception, d'accord, et qui est complètement judicieux. Quand vous prenez un vaccin qui a été fait sur le H1N1, et on s'est aperçu 2 ans après que certaines personnes étaient victimes de narcolepsie, d'accord, on n'a toujours pas trouvé de remède.
Mais oui, mais alors...
aujourd'hui, ça n'a pas marché sur le vaccin.
Ouais.
Et en plus de ça, on est beaucoup plus loin dans tout ça. On a peur de la saturation, je l'entends sur Tarbes. Il y a
des
saturations sur certains services.
Bah oui,
mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, plus de 100 000 lits en soins intensifs réanimation en France, dans le privé, sont très peu, voire pas du tout utilisés.
Alors 100 000, c'est pas de la réanimation, ce sont des lits. Et Eric, restez, Olivier, Eric, vous vouliez réagir. Hein.
Oui, enfin, je voulais réagir.
Ou Philippe, c'est Philippe, Philippe Bidger, Philippe. Oui, c'était Philippe.
Pardon.
Oui.
Je ne reprocherai pas à Eric une vision complotiste. Il a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense. Mais il me paraît assez représentatif d'une tendance française. Olivier, pardon. D'une tendance française qui préfère imaginer des desseins, des malfaisances, alors que très souvent, ce sont des incuries. J'ai connu ça dans le judiciaire et parfois, en effet, on le voit là, comme si le citoyen préférait prêter au gouvernement des desseins cohérents, même malfaisants, plutôt que d'admettre une totale inefficacité ou un manque d'organisation.
Oui, c'est un manque d'organisation. Donc, plus que... Parce que c'est vrai, sinon, c'est à l'échelle mondiale. Les Européens également sont touchés, etc. Mais on peut se poser un certain nombre de questions. C'est normal qu'on se pose, en fait, des questions. Après, il faut quand même y répondre aussi avec les arguments des uns et des autres. Il faut écouter effectivement tout le monde. Merci en tout cas à vous, Eric, Philippe Bilger, Olivier qui était également avec nous.
Bon week-end.
On va continuer, oui, on va continuer d'en Merci. Parler notamment tout à l'heure avec un épidémiologiste. On essaiera aussi d'y voir clair. C'est compliqué, hein, évidemment, que ce soit aussi sur les résultats ou les effets obtenus, les résultats notamment du couvre-feu à 18h sur ce qui avait été réalisé dans l'Est de la France et puis également sur Nice, où on a du mal à mesurer quand même, évidemment, ses premiers effets, surtout au bout de quelques jours.
Et juste après, Philippe Tournon sera avec nous, c'est le monsieur de la presse de l'équipe de France, si vous ne le connaissez pas, écoutez des anecdotes croustillantes à venir sur le monde du football, c'est aux alentours de 9h15, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h03, merci d'être avec nous ce matin. Un nouveau couvre-feu généralisé à 18h, sera-t-il nécessaire pour freiner la progression de l'épidémie? On en parle ce matin avec Pascal Crépet, qui est épidémiologiste, biostatisticien et professeur au département d'épidémiologie et de biostatistique
à Paris. Hein,
exactement. Voilà,
bonjour Pascal Crépet.
Bonjour. Oui.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez, avec vous, votre regard épidémiologiste et biostatisticien, donc de cette annonce du couvre-feu, de le passer sur tout le territoire à 18h? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça peut être utile, compte tenu du petit recul qu'on peut avoir pour ce que l'on a déjà fait?
Alors oui, c'était nécessaire, oui, ça peut être utile. Après, la question que moi je me pose, c'est si ce sera suffisant, et je pense que ce ne sera pas suffisant dans les semaines à venir. Alors pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que la circulation du virus, elle est encore très, très élevée partout en France, et que l'enjeu, c'est de baisser cette circulation pour réduire le nombre de nouvelles hospitalisations, réanimations, etc. Par ailleurs, on sait que, avec l'expérience que l'on a en Guyane, que avancer de plus en plus le couvre-feu dans le temps, ça a tendance à augmenter son efficacité. En Guyane, il avait commencé à 11h du soir, il est passé ensuite à 9h, puis à 7h, et c'est quand il est arrivé à 17h que le contrôle de l'épidémie a pu se faire et que les Guyanais ont pu absorber la vague épidémique. Donc il est probable qu'en avançant le couvre-feu à 18h, on réduise encore un peu plus les interactions sociales que nous avons et qui sont malheureusement le lieu de contamination, et qu'ainsi on gagne encore un petit peu les contaminations.
Pourquoi, Pascal Crépet, pourquoi effectivement il y a plus d'interactions sociales entre 18h, 19h, 20h? Où est-ce qu'elles ont? Parce que les gens rentrent de leur travail, etc., et font éventuellement leurs courses à cette occasion. Est-ce qu'il y a vraiment plus d'interactions là qu'il y en a dans les entreprises, quand les gens se retrouvent en fait à la cantine, quand ils se retrouvent dans les bureaux, ou quand les gamins se retrouvent à l'école sans aucun masque dans les cantines scolaires, quoi?
Non, mais vous avez totalement raison. Il n'y en a pas plus entre 18h et 20h qu'au moment que vous venez de citer. Mais le truc, c'est que faut bien manger, faut bien faire ses courses. Et donc, il y a des contacts que l'on ne peut pas éviter ou qu'il est difficile d'éviter. Si demain, on arrêtait d'avoir des contacts avec tous nos congénères, si on réduisait les contacts à zéro, en 15 jours, l'épidémie serait finie.
Mais c'est pas possible. Ce que vous dites, c'est que il faudrait quasiment un reconfinement total en 15 jours, alors, non?
Alors, mais tout dépend de l'objectif que l'on recherche.
Que l'on veut, oui.
Si, d'un point de vue strictement épidémiologique, oui, reconfiner demain, ça permettrait de faire baisser le drastiquement le nombre de nouvelles contaminations et donc de retrouver vraiment le contrôle sur l'épidémie. Mais le confinement, c'est une mesure de dernier recours. Et le confinement, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait, qu'il soit suivi par la population, que les Français soient, entre guillemets, d'accord avec le fait de se confiner.
Bien sûr, bah oui.
Et ils ne sont d'accord avec le fait de se confiner que lorsqu'ils ont tendance à voir le risque et à voir ce qu'il y a derrière les sacrifices qu'on leur demande de faire.
Ouais.
Or, actuellement, même s'il n'y a malheureusement que les épidémiologistes qui sentent vraiment le risque, et notamment ce risque lié à ce nouveau variant, parce qu'il n'est pas encore visible, parce qu'il se diffuse à très bas bruit. Et donc, je pense qu'on ne peut pas confiner la population de façon préventive, même si, d'un point de vue strictement épidémiologique, ça pourrait avoir un intérêt.
Oui, oui. Bon, mais alors, ce qui veut dire que, selon vous, Pascal Crépet, alors, dans les jours qui viennent, avec cette limitation, ce couvre-feu à 18h, donc ça va réduire un petit peu, mais ça ne va pas non plus réduire drastiquement, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer dans 15 jours, 3 semaines, si le variant britannique continue, lui, de se développer, peut-être à une vitesse un peu ralentie, mais continue de se développer?
Voilà, donc l'enjeu de ce couvre-feu avancé, c'est ça, vous venez de le dire, c'est de ralentir alors, tous les variants, hein, toutes les contaminations,
oui,
mais dont ce nouveau variant, et donc de retarder le moment où ce nouveau variant va dominer la circulation virale sur le territoire. Une fois que ce variant aura dominé, enfin, il commencera en fait à contrôler un peu les nouvelles contaminations dans le pays. Là, bien évidemment, on risque de devoir passer à des mesures plus fortes. Même si il y a quand même des aspects positifs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Déjà, on va sortir de l'hiver, donc
pas avant le mois de mars.
Hein. Okay, pas avant le mois de mars, mais bon, on s'en rapproche. On s'en rapproche. D'autre part, il y a déjà une certaine proportion de la population qui a été contaminée. On est peut-être autour de 20% dans les zones les plus touchées. Donc tout ça permet de nous aider à contrôler l'épidémie. Et puis, bien sûr, il y a la vaccination et le fait de vacciner les personnes les plus à risque, ça réduit drastiquement, enfin ça va réduire drastiquement, on espère, la charge de maladies, de cas sévères et de mortalité qui est forcément très problématique.
Oui. En toute honnêteté, Pascal Crépet, vous pensez que c'est inéluctable que fin janvier, début février, on aille vers un troisième reconfinement compte tenu de la situation de ce que vous venez de dire, quoi. Moi j'ai l'impression, en vous entendant, qu'on ralentit un petit peu, mais que de toute manière, le variant britannique va se développer quand même et qu'il faudra passer à des mesures plus strictes, c'est ce que vous dites, quoi.
Il est assez clair qu'effectivement, une mesure... Alors, je vais vous expliquer.
Oui, oui.
En fait, on est actuellement sur une forme de plateau. S'il n'y avait pas le nouveau variant britannique, parce qu'on est sur un plateau et donc un nombre de reproductions très proche de 1, il ne faut pas grand-chose, et peut-être justement une avancée du couvre-feu, pour passer du bon côté et passer sur une pente descendante. Malheureusement, avec ce nouveau variant qui change un peu la donne, il y a un moment dans les prochaines semaines où, quoi qu'il arrive, si on reste avec les mesures actuelles, où les contaminations vont réaugmenter parce que ce variant se propage 50% à 70% plus facilement que les variants actuels. Ce qui fait que, comme on sait aussi qu'on connaît l'impact du confinement de novembre, par exemple.
Bien,
le confinement de novembre, par exemple, il n'aurait pas forcément été suffisant pour contrôler l'épidémie de ce nouveau variant. Donc, si
trop light, c'est ce que vous voulez dire, quoi.
Oui, le variant britannique qui avait circulé en novembre, nous n'aurions pas eu la chute drastique des contaminations que nous avons observées. Ce qui fait que, malgré l'arrivée du beau temps, bon, certes en mars, mais et la vaccination, nous risquons d'avoir à passer à des mesures plus fortes.
Oui. Plus fortes, oui. Merci beaucoup, hein, Pascal Crépet, épidémiologiste et biostatisticien, professeur, et donc d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Philippe Bilger était resté pour poser une question. Il en posera une, mais tout à l'heure, dans un autre
tout
sujet.
Un autre
parce qu'il est contaminé par le football.
Oui.
Philippe Bilger aussi. Et il veut écouter Philippe Tournon, qui sera avec nous dans un instant.
La vie en bleu.
À la vie en bleu.
Bah, Albin Michel.
Oui. Voilà. Restez avec nous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le football, parce que c'est toutes les histoires extérieures
non,
également
y a des
qui se mêlent.
Très sympa, vous allez voir.
Non, mais c'est complètement incroyable.
On revient dans un instant, bougez pas.